Et pour parler de ces nombreux sujets, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Anne-Sophie Alsif. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Économiste du cabinet d'audit BDO France, professeur à Paris 1, Panthéon, Sorbonne. À vos côtés, Guillaume Poitrinal. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Fondateur de WO2, promoteur immobilier bas carbone. Et Valentine Hennous. Bonjour Valentine.
Bonjour.
Responsable de la stratégie taux chez Amundi. Alors évidemment, l'actualité brûlante du jour, c'est cet accord trouvé entre l'Iran et les États-Unis pour les 80 ans de Donald Trump, juste avant l'arrivée du président américain au G7 à Évian, qui se tient en ce moment même. Bon, d'abord, cet accord qui tient, de ce qu'on comprend pour l'instant, sur une fiche Bristol. Est-ce que c'est un bon ou un mauvais accord de ce que l'on sait? Qui sont les gagnants? Qui sont les perdants? Allez Anne-Sophie, je commence avec vous.
Alors premier déjà, je pense que la chose qui est principale, c'est que déjà on a un accord. C'est ça vraiment l'élément qui est le plus important.
Ce qu'on peut saluer.
Et surtout, on reste un petit peu dans le scénario central. Hein. Souvenez-vous, même sur ce plateau, on parlait toujours de risque de récession au niveau mondial, etc. Avec cet accord, on s'en éloigne énormément. On avait en fait vraiment deux scénarios. Un scénario noir où justement il n'y avait pas de déblocage du détroit d'Ormuz l'année prochaine, en 2027, et donc on était vraiment dans un conflit long. Et là, il y avait un risque de récession. Et le scénario central, qui était plutôt en effet le nôtre, de dire qu'il allait en tout cas avoir un accord sur le détroit d'Ormuz, parce qu'on voit quand même que l'accord se base beaucoup, beaucoup sur le détroit d'Ormuz, même si la géopolitique va continuer avec sûrement des conflits qui vont continuer. Mais en tout cas, ce détroit d'Ormuz devrait être débloqué. Et donc là, on est dans le scénario central qu'on confirme. Ça veut dire qu'au niveau mondial, on n'est pas du tout, en tout cas, on échappe à une récession, puisqu'on est à 2,8 cette année, donc on voit qu'on n'est pas dans un scénario de récession, avec un ralentissement partout, de 0,3 à 0,4 points, pays développés, pays en voie de développement, et des grands pays qui, quand même, qui tiennent. Les États-Unis, on le sait, avec l'investissement, on y est à plus de 2%, la Chine à 4,5%, et l'Europe, par contre, qui ralentit plus fortement, puisqu'on était avant la crise à 1,2 de croissance, et là, on est à 0,8%, donc on a perdu 0,4 points. Donc, ouais. Ralentissement économique grâce à cet accord.
Alors, a coûté cher cette guerre quand même.
Alors, a coûté cher, beaucoup moins cher que ce qui s'est passé avec la Russie, il faut le rappeler, parce qu'il y avait plein de comparaisons au début du conflit. Oui. Ça n'a strictement rien à voir. Mais par contre, avec cet accord, on risque d'être dans le scénario central, donc ralentissement de la croissance, mais on échappe au risque de récession pour l'instant.
Bon, 0,4 points de PIB en moins pour l'Europe. Oui. On est une des victimes, mais Guillaume, les gagnants, les perdants.
Honnêtement, c'était pas une super idée quoi d'attaquer l'Iran quoi. On peut se le mettre dans tous les sens. C'était même plutôt une très mauvaise idée.
Il y avait des objectifs au départ.
C'était pas préparé.
Enlever le régime des mollahs. Bon,
les mollahs ont vachement bien joué quoi à la fin.
Donc c'est l'Iran qui ressort. L'Iran sort renforcé de ce conflit.
Renforcé de tout ça. Bon, pour ce qui nous concerne, évidemment, il faut que le détroit d'Ormuz s'ouvre. Ceux qui se sont ridiculisés, c'est quand même la BCE, quoi, d'avoir augmenté les taux, genre 48 heures. Ils sont toujours à contresens, Un jour, on les verra à bon sens.
D'avoir
augmenté les taux 48 heures avant la paix, ils s'étaient mal renseignés.
On a une inflation constatée qui a augmenté quand même.
C'est comme s'il y a une inflation pétrolière et que tout ça, c'est le détroit d'Ormuz. Il y a un moment donné, on va pas soigner le détroit d'Ormuz.
La façon dont on termine, c'est quand vous avez de l'inflation pétrolière, ensuite, ça va au bien industriel, ça va au service et ça va aux salaires.
La Banque centrale, c'est une forme de contagion.
Anticipation plus que le taux d'inflation.
Valentine Hennous.
Alors, les gagnants, moi je dirais les marchés. Les marchés, ils aiment bien cet accord, ils ont réagi très positivement. Oui. Les gagnants.
SpaceX. Certains ont dit que cet accord, c'est aussi à cause de SpaceX. Le Nasdaq perdait jeudi 2%. Quelques heures après, Trump annonce boum.
Après, il y a une autre. Alors, si on veut lire.
On s'arrange, ça repart et voilà.
Ah oui. Alors, sur les marchés, enfin, moi, ce que je dirais, les gagnants, on a les marchés, on a tous les consommateurs, les entreprises qui ont vu, les consommateurs ont vu leur pouvoir d'achat baisser, les entreprises, leur coût de production monter. Et après, les perdants, c'est tous ceux qui ont anticipé un changement de régime en Iran.
Oui.
Je pense. Et les perdants, c'est également tous ceux qui ont anticipé un désarmement des proxys iraniens, notamment du Hezbollah. Donc ça, pour moi, ce sont les perdants. Après, on a un accord. Pour moi, c'est plutôt un accord économique et toutes les questions géopolitiques, elle reste. L'uranium...
Oui, on a 60 jours pour négocier, là.
Voilà, et donc c'est un accord, mais on est loin, pour moi, d'avoir une stabilité politique sur la région. Si c'est quelque chose, d'ailleurs, qu'on va atteindre au bout de 60 jours, j'en doute.
Qu'on décline les conséquences économiques. Sur les taux, là, on soulève la question, la décision de la BCE, effectivement, qui a décidé la semaine dernière d'augmenter les taux de 25 points de base. Est-ce que c'était une erreur? comme
fondamentale,
le dit Guillaume Patrinel.
Grosse erreur.
Pour moi, bon, nous on l'anticipait dans notre scénario, mais c'est pas forcément la meilleure des idées, parce qu'une hausse des prix, c'est pas de l'inflation. Oui, je suis d'accord, on va avoir une hausse des prix sur l'énergie qui va se répercuter après sur l'ensemble de l'économie, mais de l'inflation, c'est une hausse des prix généralisée et soutenable. Et
moi, là, on a un choc de prix, hein, c'est ça. C'est bien faire la différence entre ce qui est un choc de prix, la hausse du pétrole qui peut effectivement se propager à différentes matières transformées, mais c'est pas de l'inflation, ça ne s'est pas transmis au salaire, c'est
ça. Pour l'instant, et même la BCE a quand même souligné que oui, il y avait une hausse des prix, que ça allait sûrement toucher d'autres segments de l'économie, mais qu'on avait peu d'effets de second tour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on regarde sur le marché du travail, je pense que les dernières nouvelles sur le marché du travail en France qui sont tombées ce matin, elles sont mauvaises. Hein, c'est plutôt mauvaise pour l'ensemble de l'Europe d'ailleurs. Un marché du travail qui est vraiment pas en bon état, enfin, je dirais qui est en train de se détériorer. Des croissances sur les salaires, on n'est absolument plus sur la même croissance de salaire qu'on avait avant le Covid. Et puis, les niveaux de taux sont différents. Ça, c'est important, on ne le répète pas assez. Les niveaux de taux sont différents avec début 2022. Début 2022, quand la BCE a commencé à monter ses taux, le taux de dépôt de la BCE en territoire négatif, à -0,5. Les taux longs réels, c'est-à-dire les taux longs, si on exclut les effets de l'inflation, vraiment le coût de financement de l'économie...
Le coût de l'argent.
Le coût de l'argent, il était en territoire négatif. Maintenant, je considère...
Gagner de l'argent à s'endetter, pour faire
exactement.
Simple.
Exactement. Aujourd'hui, on a taux de dépôt
pour le monde.
À 2,25, donc on a eu plus de 25. Et surtout, les taux longs réels sont, pour moi, sur des niveaux restrictifs pour des pays comme la France ou l'Italie. Donc vraiment, on n'est pas dans le même contexte pour le marché du travail, on n'est pas dans le même contexte pour les taux, et on est aussi face à, pour moi, des problèmes structurels en Europe, ça c'était les mêmes qu'avant, mais où on doit investir. Donc honnêtement, la BCE
a contre le
terrain. Et sur le terrain, on a une crise majeure du BTP, le nombre de nouveaux logements qui sont mis en chantier, etc. Tout ça, c'est à l'arrêt. Oui. Tout ça, c'est très sensible à un élément, les taux d'intérêt. Et donc, on est en train de remettre encore un coup de massue sur une économie qui est franchement aujourd'hui très fragile. En Allemagne, ça se passe pas mieux. Franchement, on attend une BCE qui soit derrière l'économie et pas aller chasser un point d'inflation.
Son mandat principal reste la stabilité des prix quand même. C'est toujours le débat entre la Fed et la BCE. Valentine, puis Guillaume.
Je vais rajouter l'ancrage des anticipations d'inflation à moyen terme. C'est ça surtout son mandat, c'est que les acteurs économiques soient confiants qu'à moyen terme, l'inflation soit à 2%, pas en dessous.
Sauf... On dit toujours, son mandat, c'est l'inflation. Ils ont pratiqué un truc qui s'appelle le quantitative easing.
Oui.
Excusez-moi. C'était pas
sans
de la lutte contre l'inflation.
Oui.
Donc, ils ont quand même acheté. Non, mais relaxons-nous.
Non, mais
la
ça
BCE, elle est capable d'être intelligente de temps en temps. L'Europe, elle a besoin d'un vrai coup de pouce aujourd'hui pour investir dans l'IA. Il faut soutenir les entreprises. Il faut soutenir le BTP. Il faut construire des logements pour les jeunes. Il y a un moment donné, on attend autre chose de la BCE.
Et il y a vraiment un point, parce qu'on dit oui, c'est déjà anticipé par le marché, donc ça ne va pas vraiment impacter les entreprises. Oui, c'est déjà, pour moi, dans les prix pour toutes les entreprises qui ont accès au financement de marché. Mais pour les petites entreprises qui se financent à taux variable, cette hausse de taux, elle va lourdement peser sur leur coût de financement. Hein. Donc non, elle n'est pas indolore, cette hausse de taux de la BCE.
Est-ce qu'on peut revenir en arrière, Anne-Sophie Alsif? Le pétrole va très certainement baisser, même s'il reste autour des 80, 85, enfin sous les 84 là. Parce qu'on attend de voir aussi combien de bateaux vont pouvoir passer. Est-ce qu'on va véritablement signer un accord vendredi? Enfin, il y a encore beaucoup de questionnements.
Je pense qu'on doit faire assez attention et regarder toujours ce qui s'est passé dans le passé quand on a ce type d'accord. Certes, en effet, là, il y a un signal positif sur les marchés, mais ce n'est pas un accord qui est définitif. Et même si, en effet, on a une baisse des prix de l'énergie, comme on l'a dit, il n'y a pas que le pétrole et le gaz. Vous avez énormément d'autres matériaux qui ont eu des hausses excessivement importantes, y compris les engrais, y compris dans l'agroalimentaire. Donc, encore une fois, cette diffusion de l'inflation aux biens manufacturiers, on l'a vu dans toutes les crises, hein, historiquement, c'est tout à fait important, surtout pour une Europe qui est quand même assez spécialisée et assez dépendante, hein, en termes stratégiques, de tous ces matériaux-là. Donc, je pense que c'était ça l'objectif, c'est vraiment de casser ces anticipations, notamment aussi sur les biens manufacturiers, avec une hausse, vous l'avez dit, qui existe, mais qui reste quand même limitée, hein, on parle de 25 BP, en effet. Vous l'avez dit, sur le financement des entreprises, ça a un impact qui n'est pas forcément positif. Et en effet, quand vous avez ce genre de choc, c'est le pire pour une banque centrale parce que c'est un choc exogène. Oui. Donc le but, la conséquence, ça peut être de casser la croissance. Mais encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, pour la banque centrale, le but, c'est vraiment de casser ces anticipations d'inflation. On parle d'un accord qui est très fragile. Si dans 2-3 mois, on a de nouveau un détroit d'Hormuz qui est bloqué, on se dira, ah bah peut-être qu'en effet, on a bien fait de faire cette légère hausse. Donc là aussi, je pense qu'il faut être assez prudent et peut-être attendre plusieurs mois avant avant de faire l'évaluation.
Une des conséquences majeures aussi, c'est il semble que dans cet accord, pour l'instant signé uniquement numériquement, on verra encore une fois vendredi ce qu'il y a véritablement dans le fond, mais il y a l'instauration d'un péage, Guillaume Poitrinal, qui est un changement...
Et qui sera peut-être inflationniste,
majeur.
Les entreprises vont payer et à un moment, il faudra que cet argent peut-être se traduise par des augmentations.
Nous, les Français, il faut qu'on fasse l'inventaire de ce qu'on pourrait avoir comme détroit, en fait.
Un péage au Havre, par exemple. On est le deuxième domaine maritime mondial.
Enfin, je ne sais pas, il faudrait faire des calculs.
Quelques taxes à récupérer.
Mais je pense que les États vont tout faire pour qu'il n'y ait pas de péage, parce que la contamination, elle peut être absolument considérable. En plus, il y a quand même un problème de droit international, parce que normalement, il y a quand même des conventions qui interdisent de prendre des péages sur ce type de détroit. Et puis la moitié du détroit appartient à Oman. Personne ne parle d'Oman. Alors là, je ne sais pas pourquoi. Il n'y a aucun journaliste qui sait que la moitié du détroit appartient à Oman et que la plupart des grands pétroliers passent d'ailleurs dans les eaux territoriales omanaises, en fait. Donc, pour moi, ce truc-là, il est assez inextricable. Mais c'est pas un canal, hein, c'est un détroit. Donc, on pourrait faire Gibraltar. À mon avis, ça peut être très très gagnant pour le Maroc et l'Espagne.
Il y en a quelques-uns, oui. Oui.
Je pense que ça, le risque, c'est que ça donne des idées à d'autres et qu'on bascule dans ce risque souligné par Anne-Sophie, c'est qu'il y a une inflation sur les coûts de transport et que on reste encore dans cet environnement à cause du risque géopolitique, des chocs exogènes sur l'inflation.
À mon sens, pour finir, l'élément qui est absolument central, c'est de continuer en Europe la décarbonisation et l'électrification. Quand vous regardez la carte du monde, on aura plein d'autres conflits énergétiques sur les énergies fossiles. Quand vous voyez où c'est localisé, ça va continuer puisque les régionalisations de chaînes vont s'accélérer avec la Chine, avec les États-Unis. Donc, on aura plein d'autres conflits. Il ne faut pas, parce qu'on a une baisse du pétrole importante, tout d'un coup abandonner l'électrification où la France, l'Europe a une véritable valeur.
On voit que le signal prix a été terriblement efficace sur l'électrification,
sur la vente de véhicules électriques. Donc il faut continuer, c'est pas parce qu'on a cet accord qu'il faut arrêter ce plan d'électrification. Un plan d'électrification, c'est 10-15 ans, c'est ce qu'ont fait les États-Unis, c'est ce que font la Chine, donc c'est sur du long terme et il ne faut pas que, parce qu'en effet on a cet accord ou qu'on ait des variations de prix du baril du pétrole, eh bien qu'on remette en cause une politique d'électrification de long terme, où la France en plus a un avantage comparatif premier.
Bon.
Je suis vraiment d'accord. Et si on regarde pour l'impact quand même de ce conflit, de cette fermeture du détroit d'Ormuz, a quand même un impact assez faible sur les prix du pétrole. On parlait quand même de 20%.
On imaginait au moins pas un baril à $150 avec la fermeture du détroit d'Ormuz. Pourquoi la catastrophe n'a pas eu lieu?
Je pense qu'un des facteurs importants, bon, déjà la Chine avait beaucoup de réserves, mais la Chine est très en avance sur cette électrification. Et je pense vraiment aller dans cette direction, électrifier son économie. Et beaucoup, beaucoup moins dépendre à cette région du Moyen-Orient.
Il faut déjà regarder les chiffres. C'est vraiment le Covid qui a été un élément absolument central. Vous aviez eu un boom des investissements verts partout, que ce soit en Chine ou aux États-Unis. En Chine, vous l'avez dit très justement, c'est la première zone où on investit en décarbonation. Donc là, les investissements sont colossaux. Les États-Unis, il ne faut pas se fier à la communication. Regardez les chiffres et l'investissement. En Californie, au Texas, vous investissez beaucoup plus en décarbonation. Donc voilà, il y a la communication et il y a les chiffres. Donc il faut continuer. Pourquoi ? Parce que les États-Unis, avec l'intelligence artificielle, ont besoin de l'électrification, ont besoin d'autres sources et n'ont pas d'autres moyens. La Chine, c'est exactement pareil. Donc nous, il faut vraiment être décorrélé de ces crises pétrolières et de continuer d'investir massivement. Et pourquoi on ne pouvait pas avoir $150 de baril au niveau du pétrole ? Parce que quand vous regardez la consommation de pétrole, quand même, depuis 10 ans, elle baisse. C'est ça l'idée, c'est qu'on
la
a
demande
une électrification,
ne porte plus le marché.
Exactement, qu'on a quand même une électrification, une diversification qui existe. Et aujourd'hui, justement, regardez l'Europe, on est beaucoup moins dépendant de cette zone qu'il y a encore quelques années. Bon, les États-Unis plus du tout, ils dépensent que du Canada et de la Colombie. La Chine totalement diversifiée avec l'Afrique. Donc c'est fini, on n'a plus ces dépendances extrêmes qu'on avait pendant les chocs pétroliers.
Enfin, on reste avec une énergie carbonée à 80% autour de la planète.
Tout à fait d'accord. Et c'est pour ça que comme
le pétrole,
ça
reste 80%
de la production énergétique mondiale. C'est pour ça. Mais en tout cas, de la demande, on est déjà en mars dans la diversification des énergies. Donc il faut absolument continuer. Et encore une fois, l'Europe a un avantage comparatif.
Ce qui fait le prix du pétrole, c'est l'unité marginale. L'utilité. Mmh. Et ce qu'on peut voir, c'est que oui, il y a une demande qui baisse parce que électrification, parce que toutes les grandes économies essayent de réduire leur dépendance aux énergies fossiles. Et qu'en même temps, on peut avoir les pays producteurs qui essayent de monétiser de plus en plus leurs réserves avant la transition énergétique.
Exactement.
Donc on peut vraiment se retrouver. Alors je ne parle pas pour les 6 prochains mois, parce que bon, le temps que tout se remette, mais on peut vraiment se retrouver post-conflit dans un environnement où le prix du pétrole soit beaucoup plus bas.
Bon.
Et là ça ne doit vraiment pas arrêter nos efforts de continuer dans cette direction.
Surtout pas.
Avec un baril sous les $60, possiblement.
Alors faisons attention, parce que là aussi, pour les prix de l'énergie, je disais, il n'y a pas que le pétrole, il faut regarder toutes les énergies. Il y aura un effet aussi rattrapage. Exactement, donc il faut faire attention. Et puis vous l'avez très justement dit, il peut y avoir aussi un risque de contrôle de la production pour garder un niveau de prix aussi assez élevé, vu les coûts aussi de ces conflits, ou pas.
Une dernière question aux deux économistes. Je veux pas.
J'écoute.
Désolé, Guillaume, cher Guillaume, vous pourrez peut-être donner votre avis sur le marché de la construction immobilière, peut-être, mais ça aidera. Mais est-ce que la France rentre en récession après
ce choc? C'est mon petit précaré, le reste.
Est-ce qu'on va pouvoir partir en vacances cet été avec un prix à la pompe qui aura très nettement baissé? Voilà. Est-ce qu'on a de bonnes nouvelles qui arrivent quand même?
Oui. Les dernières nouvelles sont bonnes. Et vont quand même dans le sens d'une réduction de ce risque d'avoir une récession en France. Quand même.
Complètement. Et comme énormément de Français sont passés aussi aux véhicules électriques ou décarbonés, eh bien en effet, ils sont beaucoup moins averses à l'augmentation des prix du baril. Donc là aussi, on voit qu'une proportion plus importante de Français est protégée par cette électrification.
Bon, et donc les coûts de la construction vont baisser.
Je suis d'accord sur tout. Non, les coûts de la construction, c'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'il y a un effet de latence, en fait. Il y a un effet post-augmentation du prix de l'énergie qui se ressent généralement.
Vous l'avez senti là ou pas? C'est commencé à arriver au mois de mai.
En fait, il y a deux tendances. Il y a une tendance dépressive qui est juste que le carnet de commandes des entreprises du bâtiment est en chute régulière là, et
ça continue.
Ils nous disent tous 2027, j'ai quasiment plus rien. Donc en fait, c'est très long.
Est-ce que vous nous disiez que là on était long. Sur une queue de comète, vous aviez des commandes qui se terminaient mais qu'il n'y avait rien qui arrivait.
Voilà, et puis dans le même temps, il y a une inflation quand même malgré tout sur les matériaux. Il y a une inflation sur l'acier, il y a une inflation sur le ciment, il y a une inflation, voilà. Donc sur le bois ça va, donc on arrive à se fournir en bois. Ça va être la même histoire en fait. On va finir avec un monde décarboné, avec de l'électricité, j'espère nucléaire au maximum,
propre au maximum.
Je le dis ici, toutes les places de village devraient avoir la place Mesmer.
Oui.
Cet homme formidable.
Le plan de développement, le premier plan de développement nucléaire.
Et 84 a équipé la France de 30 réacteurs. Nucléaire. Et je rappelle que ensuite, on les a équipés jusqu'en 2001, jusqu'à Civaux. Et ensuite, après, on s'est arrêté pendant 18 ans ou 20 ans. Et ça a été, et c'est
on a
notre
perdu
grande
les
peine. Et là, il faudra un jour que les politiques rendent compte de tout ça. Parce que on avait une chance formidable, on avait une avance formidable sur le nucléaire. Et on l'a perdu. Il faut espérer qu'on la récupère, qu'on récupère ce retard. Il faut que DF mette les bouchées doubles et qu'on arrête de nous expliquer qu'il faut 20 ans.
On a relancé un peu la machine avec la PPE.
Il faut 20 ans et là on arrive à une question magistrale et la question essentielle de l'époque, c'est le temps. Et c'est la maîtrise du temps. Il va falloir qu'on puisse construire des centrales nucléaires plus rapidement parce que l'énergie, ça va être le vrai sujet à l'avenir.
Oui, évidemment.
À cause de l'IA.
Évidemment. 15 gigas de demande, je crois avoir lu ça cette semaine. On va avoir besoin de 15 gigas. Un réacteur, c'est à peu près 1 giga.
De l'eau aussi.
Donc, c'est pas mal d'eau pour rafraîchir effectivement tout ça, mais on n'est pas trop mal placé.
On n'est pas mal placé.
Allez, je voulais qu'on parle budget. On va commencer à parler budget avec ce rapport de l'Institut des politiques publiques qui a été publié hier. En fait, l'IPP le fait chaque année, une grande série de notes sur le budget. Qui sont les gagnants, qui sont les perdants du dernier PLF? Vous avez toute une série d'études, y compris sur les retraites. Passionnantes, toujours passionnantes les études de l'IPP, qui indique que le problème n'est pas seulement de savoir qui affiche le déficit entre l'État, la Sécu ou les collectivités locales. Mais qui décide de la dépense? Qui maîtrise la recette? Et finalement, qui est responsable, j'ajoute, de ce marasme? Parce qu'on est quand même très très loin du rétablissement des comptes. Anne-Sophie Alsif, vous avez eu le temps de regarder ces différentes études?
Oui, donc en effet, c'est vrai que c'est assez intéressant. On a vraiment des fiches qui expliquent, qui donnent aussi des pistes d'amélioration, des constats. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va beaucoup aider. Après, pour revenir
on
à l'espère. Ce fameux... On l'espère.
On n'est pas sûr.
5% de déficit. À mon sens, le problème qui n'est pas souligné, qui est absolument fondamental, c'est comment est structurée l'économie française. Et l'économie française est structurée à plus de 60% en termes de contribution de la croissance par la consommation des ménages. Après, en effet, vous avez l'investissement. Après, vous avez la contribution au commerce extérieur. Donc, c'est vraiment la consommation des ménages qui est absolument
le premier moteur de la croissance française.
Et donc, ça, c'est très important de le savoir, puisque une grande partie de la politique budgétaire se base là-dessus. Et c'est pour ça qu'on a eu, en effet, le quoi qu'il en coûte. C'était quoi le pari du quoi qu'il en coûte? Au début, il a été très efficace. On rappelle, on a été l'un des seuls pays à ne pas être en récession au tout début de la crise Covid. Mais après, en effet, il a été assez large. Et le gouvernement se disait, ou les instances à l'époque, bah voilà, on va continuer de faire du quoi qu'il en coûte. Ça va se transformer en consommation. Et donc en point de PIB. Et donc finalement, eh ben, grâce à la croissance, on va éponger
ce modèle keynésien, quoi.
Exactement, ce qui fonctionne très bien en France, hein, il faut le dire, par rapport à d'autres pays. Malheureusement, comme on a eu en effet les crises inflationnistes, ça s'est transformé en épargne. Et c'est ça, en vrai, le vrai sujet du système de croissance française, c'est se dire, bah, peut-être qu'il faudrait penser à rééquilibrer la place de la consommation des ménages au profit de l'investissement, comme vous l'avez très justement dit, pour justement, un, plus diversifier son économie, c'est-à-dire que comme ça, on est moins dépendant de la consommation des ménages seulement, et puis aussi pour inciter les politiques publiques, lorsqu'ils mettent en place des politiques de relance, oui. Eh bien, beaucoup plus c'est sur l'investissement productif qui demande du long terme, et forcément, quand vous n'avez pas de retour sur la croissance immédiate, bah, vous avez moins d'incitation politique à le faire que la consommation des ménages. Et donc, c'est vrai que ça aurait été aussi intéressant d'avoir dans ces éléments, de se dire, bah, voilà, si on avait, par exemple, une contribution de l'investissement à 30-35%, quelle valeur ajoutée ça pourrait créer. Et ça, ce serait un élément qui serait plus intéressant, enfin, en tout cas, qui serait complémentaire à, en effet, la vision de gestion du déficit, puisque là, en fait, on gère le vide, on gère
l'attrition.
L'attrition, voilà.
Au fur et à mesure.
Qui va payer, hein. L'État, les collectivités territoriales, alors qu'il y a déjà eu beaucoup, beaucoup de réductions, État, collectivités territoriales, enfin, surtout l'État, sur oui. La réduction des dépenses. Donc, à un moment, c'est compliqué aussi, sur l'État, en tout cas.
Valentine Hénouz, puis Guillaume.
Oui, bah, je pense que l'idée de soutenir la croissance toujours en soutenant la consommation, est-ce que c'est quand même une bonne idée? Parce que, au final, oui, ça marche. Alors, ça marche à très court terme. C'est d'une efficacité redoutable. Hein. Ça nous permet d'avoir.
Est-ce que la question qui se pose, c'est est-ce que c'est l'État qui peut soutenir le pouvoir d'achat des Français?
À moyen terme, on se rend bien compte que le résultat, ben, c'est simplement qu'on a des niveaux d'endettement plus élevés. Le problème aujourd'hui, c'est que si on regardait entre 2008 et le Covid, oui, on continuait de soutenir notre croissance avec de l'endettement, mais on était dans un environnement de taux bas. Là, le vrai sujet depuis le Covid, c'est qu'on soutient notre croissance avec de l'endettement, mais on est dans un environnement de taux plus élevé.
Et oui, ça commence à coûter cher.
Ça commence à coûter cher, et surtout, ben, on se rend bien compte qu'au bout d'un moment, bon, c'est encore soutenable, hein, l'idée, mais qu'à terme, dans quelques années, ce mode de fonctionnement ne sera plus soutenable. Donc, il faut trouver un nouveau schéma. Et le nouveau schéma, il n'y en a pas 36. Hein. C'est d'investir, d'avoir des gains de productivité et d'avoir une consommation qui soit non pas soutenue par de l'aide de l'État, mais qui soit
par des primes d'activité,
par des gains de productivité, une capacité des secteurs où il y a des capacités à augmenter les salaires. Et ça, c'est pour moi un mode de fonctionnement beaucoup plus sain pour soutenir la consommation. Mais ça demande une phase où on investit et on change notre façon de penser.
Guillaume.
Moi, je l'ai déjà dit 20 fois ici sur ce plateau.
La répétition est le premier pilier de la pédagogie, Guillaume Poitrinaire.
Eh bien, on y va. Il y a eu un moment donné où nos hommes et nos femmes politiques ont perdu la tête, elles ont perdu la raison. Ils se sont dit, les taux d'intérêt sont négatifs, donc plus j'emprunte, plus je m'enrichis. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Manque de bol. Au bout d'un certain temps, eh bien, cet emprunt, il va falloir le rembourser. C'est-à-dire que toute dette publique est remboursable à la fin. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut le refinancer.
Mais on ne rembourse jamais la dette, Guillaume.
Mais bien sûr,
qu'est-ce qu'on fait tous les
lundis? Tout ce stock de dette que nous portons avec les fameux 1 000 milliards de plus, etc., donc les 3 400 milliards de dette, tout ce stock de dette va devoir être financé. Et quand on prend de la dette, même si on prend de la dette pas chère, et je le suis chef d'entreprise, on doit se poser la question des conditions de refinancement de la dette quand cette dette sera remboursable. Elle sera remboursable, l'OAT disant, au bout de 10 ans, il faut la rembourser, et donc tirer sur une nouvelle source d'OAT. Et ce qui se passe en ce moment, c'est la gueule de bois. Pourquoi? Parce qu'on le sait, 3 400 milliards de dettes à 5%, ça fait 170 milliards d'intérêts. Aujourd'hui, la balance, elle est à 50. Ça veut dire que si nos taux d'intérêt réels continuent là où ils sont, je ne le souhaite pas, mais en tout cas, ils resteront beaucoup plus élevés que le taux de l'emprunt courant, puisqu'on a la chance d'avoir des vieilles souches d'il y a 4 ans ou d'il y a 5 ans, eh bien, là, il va falloir trouver sur le budget de l'État 100 milliards.
Eh oui.
100 milliards. Attention, Là, on rigole plus du tout.
Uniquement pour payer les intérêts de la dette. Hein, on est bien d'accord.
Les intérêts du stock de dette. Je parle pas de, baisser la dette. Là, je parle à dette constante. Oui. Et si on continue à faire du déficit, ce stock de dette va continuer à augmenter. Donc, il y a un problème de pyramide de Ponzi avec cette dette publique. On doit la dénoncer, cette pyramide de Ponzi, et d'urgence avoir des budgets à l'équilibre. D'urgence.
Valentine. Alors, on a, avant, bon, il y a un scénario très dur hein, que vous venez de dépeindre, mais on a un peu de temps pour agir quand même. Mmh. Il faut voir que le coût moyen de notre dette aujourd'hui reste autour de 2%. Mmh. Et notre dette, si le budget n'est pas très bien géré, notre dette, elle, est extrêmement bien gérée, avec une maturité moyenne de 8 ans.
On l'a rallongée, oui.
On l'a rallongée. Donc, il y a un certain temps avant que ce niveau élevé d'intérêt n'impacte le coût moyen de la dette. Mais chaque année, on a notre coût moyen de la dette qui augmente. Mais
un certain temps, c'est
alors, dans 5 ou 6 ans. Non, mais on peut donner
dans
le chiffre.
Dans 5 ou 6 ans, vous serez
si
en mark-to-market.
Si la dette, c'est 8 ans, quand est-ce que, à partir de quand a commencé à augmenter les taux?
Dans 5 ou 6 ans, vous serez en mark-to-market. Vous serez à 3,50.
Dans 6 ans. Donc, le choc est prévu, on l'aura annoncé, en 2032.
Le choc, on va espérer de prendre des décisions et d'avoir un...
Je pense que là où... bon,
allez,
bien sûr,
une note d'optimisme pour terminer.
Voilà, il n'y a pas de sujet sur les chiffres. Mais bon, on est quand même en zone euro, on est à deuxième puissance européenne, on a la Banque Centrale Européenne, donc avant qu'il y ait vraiment un choc, je pense, important, enfin, vous allez me dire tout est possible sur la dette, on a quand même des mécanismes, notamment depuis la crise des dettes avec le MES, le mécanisme européen de stabilité, etc. À mon sens, ce qui est très justement dit, c'est l'augmentation de la charge d'intérêt qui a vraiment doublé en l'espace de quelques années.
Eh oui. On est plus qu'à 50, hein, je crois qu'on arrive à 70 milliards là, cette année. Hein.
Et ce qu'on a dit précédemment, c'est dans un monde où tout le monde investit, y compris nos partenaires européens, on le voit, espagnol, italien, avec le plan de résilience pour l'Europe, 80 oui. milliards, l'Allemagne, 500 milliards. Eh bien, nous, pour payer justement cette charge d'intérêt, on pourra être financé, ça, j'ai pas trop d'inquiétude là-dessus, mais ce qui va se passer, c'est que ce sera en effet à des taux plus chers, et donc on va devoir aller encore puiser sur l'investissement qu'on fait moins pour payer cette dette. Et donc on rentre en fait dans ce cercle
vicieux. Une dynamique d'appauvrissement.
Exactement. C'est-à-dire qu'on paie ce que l'on peut avoir comme gain pour rembourser cette dette au lieu d'investir alors que les autres le font. Et donc on perd des gains de productivité et de la croissance. Et c'est là où on continue de se paupériser, d'être en dessous
donc
de la moyenne.
Donc il faut
moyenne,
de
l'inflation. Juste en dessous des moyennes.
La seule solution, c'est l'inflation. Les amis.
Non, mais l'inflation par la demande, parce que choc exogène d'inflation voilà, qui est à la fois tape la demande, sur la croissance. Je ne sais pas si c'est la meilleure idée.
La conséquence, c'est quand même. Envoyer de la monnaie dans les
encore une fois, baisser les taux de
l'initiative. Non, c'est juste avoir une approche plus mesurée sur le
augmenter défense. Les gains de productivité oui, et aujourd'hui les résultats, il faut quand même le dire hein, c'est un résultat qui est tout à fait factuel, c'est qu'on est en dessous de la moyenne des PIB de la zone euro pour le PIB par tête.
Et oui.
Ça pauvre.
Pour augmenter les gains de productivité, il faut mettre davantage de monde au travail. On va en parler dans une seconde avec la réforme des retraites, le grand sujet de la présidentielle 2027 évidemment. On va voir que de plus en plus de candidats proposent de supprimer l'âge légal, un peu lurtiquant autour de cette réforme. On va voir si c'est une bonne idée avec les experts et puis on reviendra en fin d'émission sur le rapport parlementaire sur les fonds vautours. On va voir ce qu'en pensent aussi mes invités du jour. Ne quittez pas, on se retrouve dans une minute.
Les experts, débats et controverses sur BFM Business.